Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Le journal des sports en ce moment de coronavirus et on revient sur une sélection des nouvelles avec les sonores de Radio France Internationale. Tennis, au moins 5 personnes dont 3 joueurs, Dimitrov, Koric, Troïki, ont été testés positifs au Covid-19. Grigor Dimitrov, numéro 19 mondial, testé positif donc lors de la deuxième étape du tournoi exhibition de l'Adria Tour à Zadar en Croatie, un tournoi qui a été organisé par Novak Djokovic. Précision de Hugo Moissonnier pour Radio France Internationale.
Je veux être sûr que tous ceux ayant été en contact avec moi ces derniers jours se fassent tester et prennent les précautions nécessaires. Je suis vraiment désolé pour le mal que j'ai peut-être causé. Sur les réseaux sociaux, Dimitrov sait que l'affaire dépasse son cas personnel. Sur ces mêmes réseaux, il a affiché ces derniers jours sa proximité avec d'autres ténors de l'ATP, l'Allemand Zverev, l'Autrichien Thiem ou encore le numéro 1, le Serbe Novak Djokovic. Sous l'égide de la grande vedette, tout ce beau monde a participé à l'Adria Tour, une compétition avec public, l'une des rares organisées depuis le début de la crise sanitaire. Après l'annonce de Dimitrov, une finale prévue ce dimanche a été annulée. Mais à Belgrade la semaine passée, comme à Zadar en Croatie ces derniers jours, le respect des gestes barrières n'a pas été la norme. Loin de là, on a même vu tous ces joueurs s'amuser au basket ensemble. Les interrogations vont donc être nombreuses. Djoko, Zverev, Thiem ou d'autres ont-ils été eux aussi contaminés? Vont-ils respecter une quarantaine? A priori, l'affaire ne va pas contribuer au retour de la sérénité dans le monde du tennis. Récemment, de nombreuses personnalités, dont Novak Djokovic, avaient fait part de leurs doutes concernant leur participation à l'US Open, le prochain grand chelem prévu pour le mois d'août.
On passe au foot, la Premier League en Angleterre et Liverpool a fait match nul 0-0 dimanche pour sa rentrée au championnat après plus de 3 mois sans jouer. Les Reds gardent 23 points d'avance devant Manchester City, deuxième au classement. Manchester City qui a écrasé Burnley 5 buts à 0 hier soir. En Espagne, la Liga et le Real Madrid, premiers au classement après les matchs du week-end dernier. Précision d'Antoine Grenier pour RFI.
Merengues se sont emparés de la tête du championnat ce dimanche soir en battant la Real Sociedad 2-1 au classement. Le Real devance maintenant d'un cheveu le Barça. Une satisfaction pour Fede Valverde, le milieu de terrain uruguayen de Madrid, qui estime quand même qu'il va falloir se battre jusqu'au bout.
Il y a beaucoup de joie. Quand les matchs sont difficiles et que nous l'emportons, il faut en profiter. Et bien sûr, il faut continuer à aller de l'avant avec beaucoup de motivation et d'envie. Oui, je crois, et c'est mon opinion, que nous avons été supérieurs pendant une grande partie du match. La Real Sociedad est un adversaire très difficile, qui joue très bien. Je crois que nous avons su bien résister en gardant le ballon quand nous menions au score. Et bon, ça doit nous servir comme motivation pour ce qu'il nous reste comme rencontre. Comme l'a dit notre entraîneur, nous devons jouer tous les matchs pour les gagner, comme si c'était des finales. Et donc, il faut continuer avec cet objectif, la victoire.
Fede Valverde au micro de Pierre Chaperon.
En Italie, le Camerounais Nicolas Nkoulou de Torino a marqué un but contre Parme pendant le week-end et puis a mis un genou à terre en hommage à George Floyd, l'Américain tué il y a quelques semaines à Minneapolis qui a entraîné des manifestations et des émeutes dans ce pays, puis des manifestations dans le monde. Hugo Moissonnier, RFI.
Nicolas Nkoulou a marqué les esprits ce samedi, d'abord en plaçant un coup de tête ravageur, le premier but du championnat italien depuis la reprise. Le vainqueur de la CAN 2017 a ensuite pointé un doigt et ses yeux vers le ciel avant de poser un genou à terre. À travers le monde, ce geste vise à dénoncer les violences raciales et notamment depuis la mort de George Floyd, afro-américain décédé suite à son interpellation par un policier blanc fin mai. Nicolas Nkoulou n'est pas le premier footballeur ni le premier sportif à poser son genou à terre, à voir comment cette initiative sera accueillie en Italie, pays où le racisme pollue trop souvent le football et gangrène beaucoup de tribunes. Le Sénégal et Koulibaly, le français Matuidi, le belge Lukaku et même les transalpins Balotelli et Kean, pour ne citer qu'eux, peuvent en témoigner. Les réactions des coéquipiers, des supporters ou des autorités sportives n'ont pas toujours été à la hauteur du problème. Le Torino, de son côté, semble prêt à soutenir son défenseur. Sur Twitter, durant la rencontre contre Parme, le club a publié la photo de Nicolas Nkoulou agenouillé, accompagné d'un autre symbole de la lutte contre les violences raciales, le message « Black Lives Matter ».
Et à noter la victoire de la Juve de Turin hier, 2-0 contre Bologne, la Juve qui garde la première place au classement. Retour maintenant sur la victoire du Brésil en finale au Mondial de 1970 au Mexique. C'était un 21 juin, il y a 50 ans et deux jours. Et c'était contre l'Italie avec un certain Pelé comme vedette, encore une fois, qui jouait pour son troisième sacre. Martin Guez, Radio France Internationale.
Que o capitão chegou para fuzilar pro gol!
Le plus beau but de l'histoire est une passe. Au terme d'une action collective incroyable, Pelé réinvente le foot. Magicien absolu, en confiance totale, il sert son capitaine Carlos Alberto sans même le regarder. Une passe aveugle en forme d'offrande pour l'arrière-droit lancé à pleine balle qui catapulte aux 16 mètres le ballon au fond des filets. 4-1, le score ne bougera plus pour ce qui est resté dans les mémoires comme la plus belle des finales de Coupe du Monde de l'histoire. À la fin du match, les 110 000 spectateurs du Stade Aztèque de Mexico se ruent sur les joueurs brésiliens. Des sportifs quasiment déifiés à qui l'on arrache leurs maillots, shorts et chaussettes. Pour la première fois, la compétition est retransmise en couleur à la télévision. Le monde entier a donc pu admirer le troisième sacre de Pelé et des siens. Le maillot jaune et les shorts bleus illuminent les écrans et les terrains. Jairzinho, Tostão, Rivelino éclatent aux yeux du monde. Mais surtout Pelé, alors que l'Europe se passionne pour Johan Cruyff, le légendaire numéro 10 se révèle au grand public. Au terme d'une finale majuscule, un but sur une détente inouïe, une passe décisive et donc cette passe aveugle qui en a mis plein la vue au monde entier.
On continue avec les nouvelles sportives, avec Kevin Mayer, le français vice-champion olympique de 2016, qui se sépare de son entraîneur Christophe Diremzian et Antoine Grenier pour RFI.
Eh oui, les chemins se séparent. Le champion du monde 2017, vice-champion olympique 2016 et recordman du monde du décathlon va poursuivre sa carrière sans Bertrand Valsin, celui qui l'accompagnait depuis son arrivée à Montpellier en 2008. Un changement majeur à un an des Jeux Olympiques et mûrement réfléchi pendant le confinement, Antoine Grenier.
C'est sa version du monde d'après. Kevin Mayer, 28 ans, a profité de l'arrêt des compétitions dû à la pandémie de Covid-19 pour faire le point et changer radicalement sa manière de travailler.
Le confinement a été un petit peu un élément déclencheur où je me suis entraîné un peu plus tout seul et c'était quelque chose qui me convenait parce que j'étais beaucoup plus entreprenant dans ma manière de m'entraîner et du coup j'étais plus à l'écoute avec moi-même. J'en demandais moins aux autres donc je m'en demandais plus à moi-même et du coup ça a créé des séances inattendues au niveau performance.
Exit donc Bertrand Valsin, son formateur et coach depuis le Krebs qui l'aura accompagné jusqu'aux mondiaux de Doha au Qatar l'an dernier où Mayer blessé avait dû renoncer à défendre son titre. Ne parlez pas de divorce, juste d'une séparation à l'amiable et d'un nouveau pas pour son désormais ex-athlète, selon Valsin.
Malheureusement, je l'ai appris à devenir autonome, un peu trop pour notre relation. Non, mais je suis prêt. L'autonomie, c'est aussi une de ses forces. C'est un challenge et ce sera aussi une source de motivation supplémentaire. Donc, moi, je suis vraiment confiant pour lui. Il a la clé là, de la réussite pour l'avenir.
Mayer réfléchit désormais à la structure qui va l'entourer. Des spécialistes des différentes disciplines du décathlon seront amenés à le conseiller avec pour objectif Tokyo 2021 et le désir, dixit l'athlète, de continuer à foncer.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.